C'est aujourd'hui le 18 septembre et c'est la fête d'un des saints les plus étranges et les plus mystérieux de l'année, sinon le plus étrange, Saint Joseph de Cupertino. Vous verrez pourquoi c'est absolument fantastique. Il a vécu au 17e siècle, donc il n'y a pas tellement longtemps. Il est mort il y a un peu plus de 300 ans. En 1663, il était né en 1603, donc il est mort, ce franciscain, à 60 ans. C'est un mystique extraordinaire, complètement déroutant, même cocasse, c'est inclassable. C'est un des phénomènes les plus étranges de l'histoire de la sainteté. Par contre, c'était la fête hier de Saint Robert Bellarmine, tout le contraire, un jésuite, un homme... pour l'époque, là, compte tenu de l'époque, fort équilibré. Il a vécu au moment de la réforme et de la contre-réforme, c'est-à-dire au 16e siècle, au moment où se sont détachés de l'Église beaucoup de catholiques qui sont devenus, comme on dit, des chrétiens réformés, ou, en termes un peu mieux connus, protestants, mais j'aime pas tellement le terme, je préfère chrétiens réformés. Ils ont voulu... sincèrement, je pense, pour la plupart, faire une réforme, n'est-ce pas? Et je ne les approuve pas personnellement, je ne crois pas qu'on doive séparer le corps du Christ, mais enfin, c'est mon point de vue. Je les donne pour ce qu'il vaut, ça vaut pas peut-être grand-chose. J'ai oublié de m'identifier, Raymond Beaugrand-Champagne au microphone. Alors, je commence donc par un bienheureux... un père des missions étrangères. On n'en parle pas beaucoup des missions étrangères, dommage, parce que ce sont des héros des siècles récents dans notre Église. Celui-là est un père des missions étrangères de Milan. Il est mort martyr en 1855 en Océanie. Et il était né le 1er mars 1826, donc il n'est pas mort vieux, comme vous voyez. Tout jeune, il était né à Rancho di Lecco, dans la région donc de Milan, comme je vous ai dit. C'est un séminariste exemplaire, remarquable en tout point. Il a été ordonné prêtre et il a demandé de partir pour les missions d'Océanie, c'est-à-dire, comme vous savez, j'imagine, c'est ce grand continent, oui, un continent au sud de l'océan Pacifique. Et à peine venait-il d'arriver qu'il s'embarquait déjà pour l'île de Woodlark. Wood, comme du bois, n'est-ce pas? Lark, L-A-R-K, comme une hirondelle. Où les trois autres missionnaires, au même moment, quittaient cette île, morts de fatigue et découragés. Parce que les indigènes étaient extrêmement hostiles, cherchaient de plus en plus à éliminer les missionnaires. N'acceptaient pas leur enseignement, qui était évidemment... très exigeant souvent pour des gens habitués à vivre très différemment. Un jour, je vous parlerai du problème qu'ont eu à subir les missionnaires au Japon, justement à cause de ça. C'est tragique, car les bons japonais pratiquaient des choses qu'on appelle des vices, en tous les cas, l'onanisme, etc., de façon déchaînée dans leur monastère bouddhiste. C'était plutôt pénible et l'enseignement de la chasteté n'était pas pour leur faire plaisir. Alors, c'est un peu la même chose qui s'est déroulée, semble-t-il, à l'île de Woodlark. Et le bateau qui portait notre père Jean-Baptiste Mazzucconi a été assaillé par les indigènes qui ont tout simplement tué ce missionnaire. Avant même qu'ils puissent être vraiment missionnaires, ils ont massacré tout l'équipage. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'on a connu son martyr, quand, comme on n'avait aucune nouvelle de lui, un autre père est parti à sa recherche. Il a connu les détails de son martyr. Ce père, Giovanni Battista Mazzucconi, ou Jean-Baptiste Mazzucconi, n'avait que 29 ans. 29 ans. C'était des héros, ces missionnaires. On en a eu ici au Québec. Un jour, je vous parlerai de nos sœurs grises qui traversaient le continent, traversaient le Canada, se rendaient avec leurs costumes, chose absolument extraordinaire, se rendaient jusqu'au Pacifique, descendaient le long des côtes du Pacifique pour aller évangéliser en Californie. Mais il faut lire ça, hein, c'est au siècle dernier. Ce sont des Québécoises, des femmes d'ici, qui en grand nombre sont parties comme ça, se rendant aussi bien dans l'ouest du Canada à l'époque où c'était extrêmement peu fouillé. Il n'y avait pour ainsi dire personne. Et ces sœurs grises ont été des héroïnes. Il faut lire ça. J'ai bien hâte de vous en parler. Donc, je passe à Joseph de Cupertino, ce mystique franciscain dont je vous ai dit quelques mots au début. Attendez-vous à ne rien croire de ce que je vais vous raconter à peu près. Tellement c'est fantastique. Mais en tout cas, je vous le raconte pour ce que ça vaut. C'est récent, donc, il y a un peu plus de 300 ans. Les témoins sont là. Même le pape a été témoin de ces phénomènes. Et le pape était un intellectuel à l'époque, un grand intellectuel. C'est assurément, cette vie, l'une des plus extraordinaires. C'est vraiment déroutant. C'est la plus déroutante que l'on rencontre dans toutes les annales de la sainteté. Et le fait qu'il ait vécu au XVIIe siècle, ça ne suffit peut-être pas, quand même, à garantir tous les récits. Mais on s'est posé bien des questions. Et on peut se poser des questions pour savoir comment ça se fait que Dieu faisait de tels phénomènes autour de ce pauvre Joseph. Les parents de Joseph, son père surtout, étaient vraiment des gens vertueux. Sa mère aussi qui était sévère, mais elle était vertueuse. C'est-à-dire qu'elle avait le goût de l'éduquer solidement parce qu'elle avait le sentiment dès le jeune âge de Joseph qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Il avait de la difficulté à apprendre des choses. Et alors elle voulait le discipliner pour qu'il apprenne. Et son père, lui, bien que fort vertueux, ne connaissait à peu près rien aux affaires. Alors, ils étaient pauvres. Et c'est comme ça que Joseph est né, tout simplement, comme Jésus, dans une étable, à Cupertino, d'où son nom, Joseph de Cupertino, dans le royaume de Naples. Naples était un royaume dans le temps. Il y avait un roi à Naples. Ils ont même eu des rois français. Il est né le 17 juin 1603. Donc, il a reçu une formation énergique de sa mère, à tel point que Joseph de Cupertino disait plus tard, « Je n'ai pas eu besoin de noviciat pour me broyer à la vie religieuse. » Il avait déjà subi son noviciat à domicile. D'ailleurs, il avait tout ce qu'il fallait pour mettre à l'épreuve la patience de ses éducateurs et de sa mère. Et puis, il avait tout ce qu'il fallait aussi pour exciter, si on peut dire, l'espièglerie de ses petits camarades qui lui jouaient des tours. Pourquoi? Mais on était à peu près incapable de tirer quelque chose de ses 10 doigts, puis de sa pauvre petite cervelle, qui semblait être rebelle à toute étude. Vous savez, je connais des gens, mon fils avait énormément de difficultés à apprendre. Je crois vous avoir déjà dit qu'il a terminé sa 4e année primaire à 39 ans. J'essayais, moi, de lui apprendre des choses, et des voisines gentilles venaient aussi à domicile. Des éducateurs, des éducatrices sont venus à domicile pour essayer de lui faire apprendre à lire, à écrire un peu. C'était long, ça prenait des mois, des années pour entrer un petit quelque chose sur ce plan-là. Mais mon fils, heureusement, avait 10 doigts et s'en servait fort bien pour faire toutes sortes de travaux, alors que Joseph de Cupertino semblait en être incapable. Et comme il restait presque habituellement la bouche ouverte, c'est vrai que ces gens-là restent la bouche ouverte. Mon Dieu, quand j'ai adopté mon fils, il regardait la télévision la bouche ouverte, il nous écoutait la bouche ouverte. Vous savez, avec ce regard, on ne sait pas trop s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas. Hein? Alors lui, il avait la bouche ouverte comme ça. Alors on lui avait donné un sobriquet. Bocca aperta, ça veut dire bouche bée ou bouche ouverte, bouche bée. Et c'était d'ailleurs une expression préférée de mon fils qui disait toujours, ah, quand je leur ai raconté ça, ils étaient bouche bée. Il disait donc ça tous les jours, je crois, l'expression bouche bée. Mais tout ce qui était de Dieu, là, pour Joseph de Cupertino, ça le touchait. Dieu. Curieux, hein? Même au point que ça le transportait hors de lui, ça le faisait plonger en extase. C'était comme si, dépourvu de tout moyen, toute son âme était orientée vers l'unique nécessaire, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas que je prononce le mot de Dieu, parce qu'ils sont réfractaires à ce mot, mais quand même, on ne peut pas changer tout le vocabulaire. Pour moi, le mot Dieu implique lumière, bonté, amour total et infini, tendresse, humilité, compassion. Le mot Dieu, pour moi, est insondable, indéfinissable, immense. Et j'aime bien le chapelet que récitent les musulmans pour vénérer Dieu, où à chaque grain, il y en a 99, où à chaque grain, il lui accorde un qualificatif miséricordieux, infiniment bon, et toutes sortes de qualificatifs merveilleux comme ça. C'est très beau. Notre Joseph de Cupertino, à 17 ans, a voulu entrer chez les franciscains conventuels, qu'on appelait à l'époque les mineurs conventuels. Mineurs, ça veut dire les petits frères. C'est ceux qui sont vêtus de noir. Il y en a au grand séminaire qui étudient, ils portent leurs vêtements, leurs costumes. Alors lui, il avait deux oncles chez ces moines franciscains-là. Et puis, on aurait pu croire qu'avec ces deux oncles, il aurait pu rentrer là. Mais on l'a refusé. Alors, il s'est présenté chez les Capucins. Comme vous savez, c'est une autre sorte de franciscain, si on veut. Les Capucins m'aimeront pas si je dis qu'ils sont des franciscains, mais en tous les cas, je crois bien qu'ils aiment bien les franciscains. Quand même, les Capucins, c'est les Capucins, je les aime beaucoup particulièrement. Et ils l'ont gardé quelque temps. Ils ont tout essayé pour le garder. Mais il y avait un ennui, il était constamment en extase. Il tombait en extase, comme Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, tombait en extase. Mais lui, c'était continuel. Alors, c'est arrivé que la vaisselle ne se lavait pas, ou elle se brisait. Alors, il a fallu le congédier. Et en quittant l'habit religieux, je pense à tous ceux qui ont dû quitter un couvent, un monastère, j'en sais quelque chose, c'est très dur. Eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Il a cru que sa chair se décollait de ses os. Et c'est vrai que c'est comme ça. Et au bout de quelque temps, les franciscains conventuels se sont révisés. Alors, ils l'ont rappelé. Il venait de quitter les Capucins et il est entré chez les conventuels. Les deux oncles l'ont reçu. Pour soigner tout simplement la mule du couvent de la Grottella, un petit couvent des franciscains. Alors, ils se sont dit, pour s'occuper de la mule, ça va aller. Il brisera pas la vaisselle. Mais le spectacle de sa piété, de son austérité, de son obéissance et les dons surnaturels étaient tellement extraordinaires qu'ils l'ont admis comme moine et non plus simplement comme plus ou moins en dehors de la communauté, mais qui s'occupait de la mule. Et finalement, chose absolument phénoménale, ils ont décidé de le recevoir pour le préparer au sacerdoce. Et ça impliquait à tout le moins qu'il puisse lire le missel pour dire la messe, évidemment, et qu'il puisse lire son bréviaire. Bréviaire, il y a peut-être quelques personnes qui m'écoutent. Quand on parle à la radio comme ça, on ne sait pas qui nous écoute. Peut-être que vous vous demandez ce que c'est qu'un bréviaire. Je le dis pour les quelques personnes qui ne sauraient pas ça. C'est un livre de prière dont se servent les prêtres pour prier chaque jour. Les musulmans, vous savez, disent qu'ils prient 5 fois par jour, mais les prêtres prient 7 fois par jour. Vous priez 7 fois par jour dans ce bréviaire préconciliaire, là, d'avant le concile, d'avant les années 60. Et c'était en latin, il fallait lire ça différentes heures du jour, comme les moines dans les monastères. Et alors, frère Joseph s'y appliquait de son mieux. Mais il n'y arrivait pas. Comment lire? Comment apprendre à lire? Alors, quand la patience de celui qui lui enseignait à lire commençait à défaillir, frère Joseph lui disait, en suppliant, prenez patience et vous en aurez ainsi plus de mérite. C'est une façon de mettre l'autre moine de son côté. Alors, mais il restait à passer les examens requis, finalement, après quelques années d'études comme ça. Alors, il y arrivait petit à petit. Mais là, qu'est-ce qui pouvait arriver aux examens? Il pourrait jamais passer. Hein? Alors, il s'est confié à la Sainte Vierge, la Madone de la Grotelle, qui était la gérante, si on peut dire, de ce petit monastère. Et le 3 janvier 1627, l'évêque de Nardo, la ville voisine, l'a interrogé avant de l'admettre au diaconat, pour qu'il devienne diacre. Hein? C'était le dernier pas avant de devenir prêtre dans ce temps-là. Alors, il a ouvert le livre des Évangiles et il lui a demandé d'expliquer le texte « Bienheureux le saint qui vous a porté ». Et il s'en est tiré à merveille. Et avant d'être ordonné prêtre, mais il fallait qu'il comparaisse avec ses confrères devant l'évêque, cette fois-là, de Castro, qui s'appelait Monseigneur Detti. Et puis, comme ses confrères qui sont passés avant lui semblaient être très capables de répondre à peu près à toutes les questions, et puis qu'il en restait quelques-uns, puis l'évêque était un peu fatigué de questionner les jeunes franciscains, ben il a décidé de ne pas intéresser les derniers, puisque tous étaient très bien préparés. Or, Joseph était parmi les derniers, et voilà pourquoi il est devenu, savez-vous quoi, le patron des candidats aux examens. Alors, les candidats aux examens qui ont de la difficulté, qui se demandent s'ils vont réussir à passer, vous pouvez prier Joseph de Cupertino. D'ailleurs, on raconte dans un livre qu'un jeune, un bachelier de 1985, Jean-Noël Villain, en France, aurait prié Joseph de Cupertino, puis il déclare qu'il a obtenu 20 sur 20 à l'épreuve facultative de musique. Et puis, il n'était pas tellement bien préparé, mais il a eu 20 sur 20 quand même. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Et puis alors donc, la vie de notre saint a été, après ça, une suite de miracles, puis aussi d'épreuves. Tous n'acceptent évidemment pas, avec la même confiance naïve, là, les phénomènes surnaturels dont il était l'objet. Tout le monde en discutait. Il a fait un voyage un jour sur l'ordre de son supérieur pour visiter différentes maisons de son ordre, des conventuels, les franciscains noirs, qui ont un vêtement noir, dans le sud de l'Italie. Ils sont très nombreux là-bas. Hein? Et ça attirait un peu trop l'attention sur lui, et le vicaire général n'aimait pas tellement ça. Alors, il a été dénoncé au Saint-Office, c'est-à-dire l'Inquisition à Rome. Il a été référé au Saint-Office local, là, à Naples, puis envoyé à Rome. Et là, le supérieur général des franciscains conventuels, qui était très méfiant de tout ce qu'il avait entendu, a été bientôt conquis. Alors, il a amené Joseph de Cupertino au pape Urbain VIII, ce pape fort intellectuel et fort brillant. Il a eu devant lui une extase. Il a levé dans les airs. Vous savez, on raconte souvent que dans les rencontres de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, les deux plus grands mystiques peut-être de l'histoire de l'Église, chrétienne, catholique, eh bien, quand ils avaient des conversations qui étaient très mystiques, ils levaient du sol. On les a vus lever à 3, 4, 5, 6 pieds de hauteur. Et c'était ainsi pour Joseph de Cupertino. Il a été envoyé au grand couvent des franciscains conventuels à Assise. C'est immense. Il faut voir ce beau couvent, la grande église. C'est des endroits les plus beaux de la terre, à peu près. Il a soupiré en entrant dans l'église. Père Saint, voyez-vous, il s'adressait à Dieu notre Père. Il avait une spiritualité profondément chrétienne. La spiritualité chrétienne, dans la messe, c'est la messe qui nous l'enseigne. C'est toutes les oraisons de la grande prière chrétienne officielle s'adressent toujours à Dieu notre Père, ou presque toujours. Alors, Père Saint, vous avez tant aimé la pauvreté durant votre vie, et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'argent et le brocart, et parmi les plus somptueuses décorations. Le Père s'est incarné en Jésus-Christ. Souvent, on représente le Père dans des décors somptueux, ou bien on met les statues du Christ couvertes de brocart et d'argent, décorées de pierreries. Et pour lui, c'était offensant. Et Saint François lui a appris que tout cela n'était pas pour lui. Ah non, il s'adressait à Saint François, je me souviens maintenant, j'avais lu ça il y a quelques jours. Il s'adressait à Saint François et il trouvait que, puisque Saint François avait aimé la pauvreté, alors il était affublé comme le Christ dans bien des églises du sud de l'Italie ou dans l'Italie ou en Espagne, n'est-ce pas? Affublé de toutes sortes de décorations. Eh bien, Saint François lui a appris que tout cela n'était pas pour lui, mais pour l'hôte du tabernacle. C'est-à-dire que quand un saint est honoré, c'est le Christ qui est honoré. Et quand le Christ est honoré, c'est Dieu notre Père qui est vénéré et adoré. Et c'est ainsi que tout se réfère à Dieu notre Père. Et l'hostilité et la sévérité d'un des gardiens ou du gardien du monastère l'a fait beaucoup, beaucoup souffrir. Parce que les couvents franciscains ont un gardien, et parfois les gardiens doivent voir la bonne tenue de l'ensemble, et ce gardien était sévère à l'égard de ce saint qui était très étrange. Et il a été privé, ainsi, il était éloigné de sa madone de la Grottella qu'il aimait beaucoup à Copertino, et pour se consoler, le général l'a fait venir quelque temps à Rome, et au retour, il est accueilli triomphalement, finalement. Et en entrant dans l'église, il a aperçu peinte sur la voûte une image de la Vierge, qui était semblable à celle de la Grottella, et alors, aussitôt ravi et hors de lui, il s'est élancé dans l'air. Oui, il montait très haut pour baiser cette image, en s'écriant « Ma mère, tu m'as suivi ». Et ce phénomène était courant et s'est répété des centaines et des centaines de fois devant des tas de gens. Ça se répétait à tout propos et en toutes circonstances. Et un jour, même l'ambassadeur d'Espagne, après l'avoir entretenu au parloir, a voulu lui présenter sa femme à l'église. Alors un ordre du gardien du couvent, c'est-à-dire du supérieur du couvent, si vous voulez, a réussi à le convaincre d'aller rencontrer cette femme, la femme de l'ambassadeur. Mais à peine était-il dans l'église qu'à la vue de la statue de la Vierge, il s'est envolé encore dans les airs pour lui baiser les pieds, en poussant une espèce de cri qu'il avait, qui était habituel, un cri qui n'était pas effrayant, un cri plutôt d'extase, quoi. Et après une longue prière, suspendue ainsi dans les airs, il a poussé de nouveau un cri, tout doux, il est redescendu, il a baisé la terre, il a salué la Madone, et le visage caché dans son capuchon s'est incliné et a regagné sa cellule, laissant ses dames, la femme de l'ambassadeur et sa suite, parce que dans ce temps-là, ces femmes-là avaient des suites, n'est-ce pas? Elles étaient mortes d'effroi, elles ont eu peur, elles avaient peur qu'il tombe par terre et qu'il se tue. D'autres personnages venaient d'ailleurs le consulter sur la conduite qu'il devait tenir. Et ainsi, on a vu le prince Casimir de Pologne, qui était extrêmement puissant et qui avait quitté son pays pour entrer chez les jésuites. Et il avait été nommé cardinal par Innocent X, ce prince devenu jésuite. Il venait avec l'autorisation du pape de renoncer à cette dignité de cardinal pour épouser, parce qu'il n'était pas, il n'avait pas été ordonné prêtre, n'est-ce pas? Alors, il a renoncé à la dignité, parce qu'on pouvait être cardinal laïque ou cardinal clair, non prêtre. Hein? Alors, il a renoncé à cette dignité pour épouser la veuve de son frère et pour donner des héritiers à son trône. Et au trône de Pologne. Alors, pour tranquilliser sa conscience, il est passé par Assise. Il a demandé à Saint-Joseph de Cupertino, « Est-ce avec le chapeau de cardinal ou bien avec l'épée que je suis appelé à servir Dieu? » Alors, le saint lui a répété, « Dommage, mais ce sera avec l'épée. » Alors, tous ces mouvements créés autour de ce pauvre religieux très humble, tous ces phénomènes surnaturels étranges ont inquiété de nouveau l'Inquisition, puis en 1653, un ordre du Saint-Office l'a tiré de son couvent d'Assise pour l'envoyer dans un couvent de Capucins, à Petra Rubea, pour l'isoler davantage à Fossombrone, et comme à Assise, et pour les mêmes raisons, le saint devait vivre à l'écart de la communauté, et à titre d'exemple, sa messe durait habituellement 2 heures. Et de temps en temps, eh bien, Dieu lui faisait savoir de l'abréger pour lui permettre d'aller faire son office de quêteur, car il exerçait le simple office de quêteur. Or, l'élévation du cardinal Chigi, les Chigi, c'est parmi les princes les plus puissants d'Italie. L'élévation du prince Chigi au trône du pape, sous le nom d'Alexandre VII, a permis aux franciscains conventuels de récupérer celui qu'ils considéraient comme leur gloire. Et là, je vous raconterai comment il a rencontré ce pape extraordinaire, Alexandre VII. Je voudrais ajouter un mot sur Joseph de Cupertino avant de passer à sa rencontre avec le pape. Son supérieur avait remarqué, on peut dire, la façon admirable dont Joseph parlait de Dieu aux gens autour de lui, particulièrement ses confrères. Et finalement, il lui a demandé de prêcher. Et les foules pleuraient, dit-on, à l'entendre. Ils s'accusaient tout haut de leurs péchés, demandaient des conseils. Et Saint Joseph de Cupertino répondait avec une lumière comme surnaturelle, avec une grande tendresse, une grande clarté. Et des merveilles apparaissaient à Joseph dans ses ravissements, comme si le corps voulait suivre son âme qui s'envolait. Il s'élevait, comme je vous ai dit tout à l'heure, au-dessus de la terre. Il demeurait même suspendu, n'est-ce pas, les bras en croix, le visage inondé de clarté, disent les témoins. On le voyait aussi éperdu d'allégresse, aller jusqu'à danser devant la Vierge ou l'enfant de la crèche. Et il s'envolait parfois pour poser ses lèvres, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les pieds de la statue de la Madone. Et de même, il lui est arrivé, et ça j'avais déjà lu ça dans une vie assez longue sur Joseph de Cupertino, et il était arrivé une fois dans une de ses extases aériennes de se poser comme un oiseau sur une branche et d'y rester ravi en Dieu. Vous allez dire, ça n'a pas de sens, mais les témoins nous disent que c'est vrai. Alors moi, je ne sais pas quoi penser. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ça, évidemment. Tellement c'est phénoménal. Alors, il lisait d'ailleurs sur les visages la beauté des consciences. Il voyait réellement une face répugnante aux pécheurs. Il lui leur disait d'ailleurs, « Va te nettoyer, tu as la figure noire. » Et l'autre de courir se confesser immédiatement parce qu'on connaissait, on savait que Joseph de Cupertino voyait à l'intérieur. Une odeur nauséabonde d'ailleurs lui faisait découvrir les vices de certaines personnes. Et pourtant, lui, il exhalait un parfum suave. Et beaucoup de saints, comme ça, ont exhalé un parfum suave, mais c'était après leur mort. Hein. Et pour lui, c'était de son vivant, c'était un signe, disaient tous les conseillers, de sa pureté resplendissante. Hein. Il devenait l'objet d'une telle vénération que l'on coupait même des morceaux de son vêtement pour en faire des reliques. Alors, il attribuait à sa maladresse auprès de son supérieur son vêtement abîmé. Alors, il a été réprimandé plusieurs fois avant que son supérieur ne se rende compte que c'était les fidèles qui, armés d'un couteau, coupaient son vêtement. Alors, il était doux pour les uns, mais il rabrouait facilement des gens importants et même des grandes dames. Il disait à des gens, et c'était très insultant, Frère âne n'a rien à vous dire. Frère âne, c'était lui. Il se considérait comme un âne tellement il avait souffert d'être incapable d'apprendre des grandes choses dans son jeune âge. C'était même un ami de Galilée. C'est lui qui a dû condamner Galilée avec grand regret et qui a placé Galilée d'ailleurs dans une résidence fort confortable avec infiniment de respect car c'était un homme qui s'intéressait à l'astronomie et était d'accord privément avec Galilée. Il faut le lire dans les ouvrages les plus récents sur toutes ces questions. Hein. Et ce pape, d'ailleurs, qui était un intellectuel, a travaillé beaucoup sur les textes liturgiques, comme sur le pontifical, c'est-à-dire tous les rituels qui entourent les évêques, sur le bréviaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce livre de prière des prêtres et des évêques, sur les rituels, sur le martyrologe. Et c'est lui qui a fait construire cette résidence d'été des papes dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Castel Gandolfo. Il a été donc témoin et a endossé Joseph de Cupertino, de même que son successeur Alexandre VII. Alexandre VII, le cardinal Kijil, là, qui est devenu pape sous le nom d'Alexandre VII, a permis aux moines franciscains conventuels de récupérer chez les capucins ce moine que eux, finalement, petit à petit, se sont mis à considérer comme leur gloire. Alors, ils ont voulu le ramener, Joseph de Cupertino, à Assise, mais le pape a répondu, non, non, c'est assez d'un saint François à Assise. Il ne voulait pas qu'il y ait là deux saints à Assise. Saint François étant mort, mais était très vénéré. Alors, il était envoyé à Osimo, dans le nord, dans la marche d'Ancône, près de Lorette, en 1657. Il s'est écrié en arrivant, « Ec requies mea, ici sera mon repos ». Et c'est là qu'il est mort, le 17 septembre 1663. Il a été béatifié par Benoît XIV en 1753, 90 ans plus tard, et canonisé par Clément XIII en 1767, à peine quelques années après avoir été béatifié. Et il est toujours un saint difficile à accepter, mais dont Ernest Hello a parlé dans des termes très clairs. Ernest Hello, dans son livre « Physionomie de saint », a écrit « Si jamais homme fut doué pauvrement, ce fut saint Joseph de Cupertino. Toutes les splendeurs naturelles lui firent défaut. Il s'appelait lui-même frère âne. Il fut en effet parmi les hommes ce qu'est l'âne parmi les animaux, incapable de passer un examen, peut-être même de soutenir une conversation, incapable en même temps de soigner une maison ou de toucher une assiette sans la casser. Dépourvu des aptitudes de l'esprit et de celles de la matière, il semblait également inapte à être un savant et un bon domestique. Et cependant, Joseph est devenu saint Joseph. Il est extraordinaire parmi les extraordinaires. Parce que petit à petit, il est venu, n'est-ce pas, à parler et à prêcher de façon très simple, ce qui touchait beaucoup les gens. Comme quoi, la prédication n'a pas besoin d'être très savante pour toucher une grande partie des gens. Il suffit que la personne qui parle, le prêtre qui parle, l'évêque qui enseigne, soit convaincu de ce qu'il dit. D'ailleurs, il disait, saint Joseph de Cupertino, « Je suis content partout, car je trouve Dieu partout. » N'est-ce pas merveilleux? Et dans le dernier livre du Père Brault, qu'il m'a envoyé à l'occasion de mon anniversaire, ce beau livre magnifique que je vous recommande, « Peut-on éviter Jésus-Christ ?» aux éditions de Fallois, je lis un paragraphe qu'il a écrit, qui est magnifique sur la sainteté et sur le silence des saints. Que dirait-on d'un chanoine? Il parle toujours de différents saints. Que dirait-on d'un chanoine en pleine force de l'âge qui, de retour à Toulouse, dans le sud de la France, après un voyage à pied de l'Espagne au Danemark avec son évêque, quitte sa charge de conseiller personnel pour prendre 10 ans de retraite? Le silence. Que dirait-on d'une ancienne serveuse de cabaret qui pour obéir à son confesseur, s'oblige au silence pendant plus de 45 ans, alors qu'une authentique mission venue du ciel lui avait été confiée? C'est qui ça? C'est pas Sainte Bernadette. Que dirait-on d'un fabricant de tentes? Il s'agit de Saint Paul, évidemment. Que dirait-on d'un fabricant de tentes plus ou moins spécialiste en théologie, qui après un coup de soleil se retire 3 ans en méditation avant de se mettre à bouleverser les foules? Que dirait-on d'un homme de 23 ans, un peu noceur, qui se met en congé de l'armée pour se livrer à des relevés topographiques et disparaître au désert pendant des mois, puis des années, hein, je vous en parlerai au début de décembre, c'est Charles de Foucault. Que dirait-on d'une adolescente de 13 ans, qui pendant 4 années garde pour elle seule ses illuminations et qui à 18 ans fonde la conscience d'une nation afin de terminer sa vie par 18 mois de prison, abandonné de tous? N'est-ce pas étrange? C'est pas Jeanne d'Arc, une autre bergère qui, toute jeune, accepte à 15 ans de retraite dans un ordre religieux, c'est Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. 15 ans de retraite dans un ordre religieux qu'on a choisi pour elle. Que dirait-on d'une petite fille d'horloger, c'est elle plutôt, la fille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une fille d'horloger et de dentelière, tellement insignifiante qu'on se demandera à l'approche de sa mort de petite bourgeoise maladive ce qu'on pourrait bien dire d'elle. Hein, ses sœurs au Carmel se disaient, qu'est-ce qu'on pourrait écrire de Thérèse l'Enfant Jésus? Mais elle devient la Française la plus connue dans le monde entier. En somme, les saints souvent sont des saints curieux, des saints d'origines étranges, comme notre Joseph de Cupertino, né dans une étable, presque ignorant, et qui, au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Bien peu de choses. De retour à Rencontre spirituelle, je vous dis quelques mots d'un bienheureux dominicain, un martyr, qui est mort en 1840 et qui s'appelait Dominique Trac Doa. Et je le signale parce que c'est un Vietnamien, et nous avons à Montréal beaucoup de Vietnamiens, et une grande partie d'entre eux sont des catholiques, même fort fervents. Or, Dominique Trac Doa était né dans ce qu'on appelle le Tonkin méridional, en 1792. Et il était déjà prêtre quand il a fait profession chez les Dominicains, le 13 juin 1825. Et il souffrait d'une phtisie. Ça le minait très lentement, mais il était très courageux et très zélé. Spécialement pour les jeunes enfants de la mission. Et il disait avec envie, dans l'autre vicariat, c'est-à-dire dans l'autre diocèse, si on veut, ils ont eu des martyrs, et chez nous, on n'en a pas encore eu un seul. Mais les choses ont changé tout à coup. Et là, la persécution l'a obligé à se cacher, mais il a été arrêté. Et on lui a mis la gangue au cou, hein, et le mandarin l'a fait enfermer avec d'autres chrétiens. Et il les a confessés, les exhortait au courage. Et il disait, je ne suis pas vigoureux, mais je ne me plains pas de souffrir pour Dieu, je ne crains rien. Alors on a mené à la ville où on a voulu lui faire piétiner la croix. Alors il s'y est refusé, malgré les mauvais traitements, qui étaient augmentés par sa phtisie dont il souffrait toujours. Alors on insistait, et on lui a offert la liberté, des récompenses, il répondait plutôt mourir. Alors en prison, il montrait constamment une joie qui ne s'éteignait jamais. Et finalement, il a été décapité le 18 septembre. 1840. Il avait 49 ans. Et Rome l'a béatifié au début du siècle, en 1900. C'était hier la fête de Saint Robert Bellarmine, Robert François Bellarmine. Ce n'est pas un Français en dépit de son nom, car son vrai nom c'est Roberto Francesco Bellarmino. Un Italien, né en Toscane, le 4 octobre 1542. Et sa mère était la sœur du pape Marcel II. Il est entré dans la Compagnie de Jésus, donc chez les Jésuites, à 18 ans. Il a été envoyé par ses supérieurs en Belgique, à Louvain, pour terminer ses études. Et il a finalement terminé d'une façon brillante ses études, puis il est devenu professeur. Et c'est là qu'a commencé sa carrière d'intellectuel remarquable. Il est devenu fort célèbre, car né en 1542, on imagine bien que c'était en pleine réforme protestante. Hein? La réforme protestante date du tout début du XVIe siècle, 1517, 1521, 1532, c'est des grandes dates. Et alors, on a fondé ce qu'on appelle le Collège romain, une chaire de controverse, c'est-à-dire un endroit pour discuter avec les réformés des questions de la foi et défendre la foi catholique comme eux défendaient la leur. Donc, ça lui a été confié, la chaire de controverse, c'est-à-dire, si vous voulez dire, le professeur principal. Il l'a occupé pendant 12 ans. Il va enseigner. Et puis il va écrire contre les réformateurs. Il l'a fait de telle façon que ses adversaires protestants les plus loyaux lui ont rendu eux-mêmes hommage, car ils l'ont trouvé fort érudit. Et ils ont trouvé que le ton de Robert Bellarmine était digne et modéré et respectueux. Et c'est extraordinaire quand on pense à l'époque, parce que le feu des passions à cette époque-là n'entraînait pas facilement ni les catholiques ni les protestants, et on le voit chez Luther en particulier, où le feu de sa passion déborde et accuse le catholicisme d'être une Babylone infecte et le pape d'être l'antéchrist, etc. Il se déchaîne, Luther, en dépit des très beaux passages de ses œuvres. Il faudra que je vous parle des aspects positifs de Luther. Et il y a de très belles choses chez Luther, mais des choses pénibles à mon avis. Et alors donc, pour Robert Bellarmine, il semble, d'après les protestants, qu'il a été assez exemplaire pour l'époque, en tous les cas. Hein. Alors, on peut dire que dès ces moments-là, la sainteté régnait au fond de son cœur pour qu'il puisse se dominer à ce point-là. Et il a écrit deux ouvrages extrêmement importants que l'on, parmi les autres, c'est « Controverses », justement, et « Petit catéchisme ». Et ça a été ces deux ouvrages ont eu une diffusion extraordinaire à l'époque où il fallait vraiment combattre et défendre la foi devant l'envahissement de foi différentes. Hein. Ça a eu une influence durable. Son catéchisme, d'ailleurs, a été traduit dans une cinquantaine de langues. Alors, il avait un grand talent de controversiste, si on peut dire, hein. Ça en a fait un homme très célèbre, et on disait de lui qu'il était le plus grand petit homme de la terre. Ça peut consoler ceux qui m'écoutent et qui sont de petite taille. Il était, en effet, de petite taille et extrêmement brillant. Et on peut pas oublier toutes les autres activités qu'il a eues. Il a été créé cardinal, ce jésuite, par Clément VIII. Il a failli, d'ailleurs, deux fois devenir pape. Et finalement, il a été nommé évêque de Capoue. Il y a une expression, on parle des délices de Capoue. Alors, il a été évêque de Capoue. Mais il n'a pas résidé là longtemps, dans son diocèse, parce que le pape avait besoin de lui. Il l'a appelé à Rome pour s'occuper de l'église, s'occuper de la curie. Il y a eu des tâches délicates qui lui ont été confiées dans divers domaines, et il s'en est... Il a très bien accompli ses devoirs. Et le pape a eu très souvent recours à sa plume pour rédiger des textes dont il avait besoin. Devenu célèbre, ça n'a jamais fait oublier ses qualités de religieux. Toujours, il a été fidèle à sa vocation. Vocation extrêmement importante. Vocation de jésuite d'abord. Et pour lui, c'était ce qui était de plus important. Dans différentes œuvres, Robert Bellarmine fait montre de sa vie intérieure exceptionnelle. Une très, très grande vie intérieure, une foi à toute épreuve, et un amour du Christ Jésus qui est remarquable. Il pratiquait une l'ascèse et l'oraison qui émerveillait chacun qui l'observait, et sa sainteté a frappé l'imagination populaire dès son passage sur la terre. Ça n'est pas après sa canonisation qu'il a marqué le monde, c'est vraiment durant sa vie. Sa sainteté éblouissait à ce point le peuple de Rome, qui était très difficile et extrêmement exigeant. Et le peuple de Rome est plutôt extrêmement sévère à l'égard de tout le clergé. Et dès qu'on a annoncé l'agonie de Robert Bellarmine, le peuple de Rome pleurait. Ils sont venus auprès de Robert Bellarmine sous les fenêtres pour prier. Et même le pape Grégoire XV s'est déplacé pour aller auprès de lui. Il est mort donc le 17 septembre 1621. Il avait 79 ans. Et son corps a été enseveli auprès de celui de Saint-Louis de Gonzague, et dont il avait été le confesseur. Il a été donc enseveli à Rome dans l'église des Jésuites. C'est Clément VIII qui en avait fait son théologien consulteur et qui disait de lui, « Dans l'Église de Dieu, nul ne l'égale pour la doctrine. » Il a même fait, Robert Bellarmine, une grammaire hébraïque. Il a écrit un très beau livre, « L'art de bien mourir ». Et il a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, le directeur de Louis Gonzague. Et à son propos, les protestants disaient que le Robert Bellarmine était, pour ainsi dire, inattaquable, indestructible. Et il a été déclaré docteur de l'Église en 1931. Les controverses dont je vous ai parlé, qu'il a écrites, controverses du christianisme au sujet des hérétiques de ce temps. On donnait le nom d'hérétique aux protestants, hein, c'était les termes qu'on utilisait, et je m'en excuse. Alors, ce livre, il s'agit de la plus célèbre polémique catholique au temps de la contre-réforme. Et aujourd'hui, on n'a plus, pour ainsi dire, de livres ainsi de controverses ou d'apologétiques. Je crois qu'il faudrait réformer les textes de controverses et d'apologétiques dans un esprit d'écuménisme sain et clair, où on parlerait avec franchise et avec plus de clarté des positions réciproques en se permettant d'admirer ce qu'il y a de positif chez les autres, mais aussi de discuter sainement et calmement. Dans son livre, d'ailleurs, c'est avec calme, avec respect, avec objectivité, avec méthode que Robert Bellarmine examine les diverses doctrines en faisant une exploration historique et dialectique. C'est vigoureux chez lui, sa façon de s'expliquer, son érudition, sa courtoisie. Tout ça lui permet de mettre au point tout ce qu'il faut pour défendre la foi catholique. Et ça reste, même aujourd'hui, en grande partie d'une étonnante modernité, particulièrement ce qui concerne le pouvoir indirect du pape en matière temporelle. Dans son petit catéchisme, il définit l'Église ainsi. C'est la réunion des hommes qu'associe la profession d'une même foi et la communion des mêmes sacrements, sous la régence, sous la direction des pasteurs légitimes, notamment du pape, unique vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Beaucoup de protestants en viennent à déclarer d'ailleurs, sans pouvoir accepter l'infaillibilité du pape, que seul le pape peut rassembler tous les chrétiens. C'est le Christ d'abord qui nous rassemble, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Les protestants n'en démordront pas et les catholiques non plus. C'est le Christ qui nous rassemble. Mais le vicaire, son unique vicaire, c'est le pape. Et si ce qui entoure le pape peut s'adapter légèrement, sans trahir ce à quoi nous croyons, probablement que beaucoup de protestants se rapprocheraient davantage de l'Église catholique. Au prédicateur, il donnait ce conseil. Nous perdons beaucoup de temps à peaufiner des périodes et à assertir des mots. Une fervente prière au Seigneur pour lui demander le bon effet de notre parole nous ferait souvent produire un plus grand fruit. Mon expérience me l'a appris. Et c'est vrai que quand on fait prier sur soi avant de prêcher, et quand on prie vraiment, Dieu nous exauce. Dans des méditations sur le Christ en croix, il disait « Les 3 heures que je passais sur la croix avant de mourir devaient me paraître fort longues. » Il parle au nom de Jésus-Christ. « D'autre part, mon désir ardent de glorifier mon Père et de sauver les hommes était comme un feu, qui ne voulait d'autre matière que la patience et qui ne disait jamais « c'est assez ». En réalité, ces 3 heures ne me durèrent que 3 moments. Tant je brûlais d'envie de souffrir. C'est une étrange perspective que l'on avait à l'époque et que l'on a encore parfois aujourd'hui, comme si la souffrance était un bien. Mais ce n'est pas la souffrance. C'est l'amour au cru de la souffrance qui transforme tout. Un protestant disait de Saint-Robert Bellarmin, « À lui seul, Bellarmin vaut tous les docteurs catholiques. » Dans une conversation qu'il a tenue en 1601 avec deux cardinaux, le cardinal lui dit, « Il me semble que sa sainteté Clément VIII va tout prochainement définir la question de la grâce efficace. » Et Bellarmin dit, « Sa sainteté ne le fera pas. » Le cardinal lui dit, « En êtes-vous tellement sûr? Le pape, reconnaissez-le, a le pouvoir de le faire, et je crois savoir qu'il y est bien décidé. » Et Saint-Robert Bellarmin lui dit, « Il possède effectivement ce pouvoir, mais il n'en usera pas. » Alors le cardinal dit, « Comment donc pouvez-vous le savoir? » Et Robert Bellarmin répond, « Il mourra avant de le faire. » Il ne s'est pas trompé. Le pape est mort. Dans la prière d'ouverture pour la messe de sa fête, on peut prier ensemble en s'adressant à Dieu. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint-Robert Bellarmin une science et une force étonnante pour défendre la foi de l'Église. Par ton intercession, accorde à ton peuple le bonheur de garder cette foi dans toute sa pureté.